ça, c'est derrière toi. Maintenant je peux partir, moi je serai toujours là.
Vous êtes sur 8FM. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble les versions longues des meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors le problème, je vais te dire ce que c'est. Mm-hmm. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée.
Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris.
50 000 questions sur Disneyland Paris.
Tu commences à avoir l'habitude.
Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir.
Ouais.
Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir. Lui, il y a les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok?
L'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà.
Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été.
Oh, 3-4 fois aussi, ouais.
Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, hein, déjà, vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et tout ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, bientôt, au mois de mai, il me semble.
Au mois de mai, ouais.
Moi je bosse chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris?
Eh ben écoute, déjà il faut aller sur le site Disneyland Careers, en fait t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors quelquefois ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent par exemple une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là tu fais un entretien. Alors moi à l'époque où je suis passé c'était en binôme, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens.
Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues?
C'est pas obligatoire, mais...
Vivement recommandé.
Ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire, en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier, où t'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire.
Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey, du coup?
Moi, c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa.
Je voulais qu'on revienne là-dessus, tiens. Disney, c'est souvent très cher. On va pas se mentir, hein. ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille.
Ouais.
C'est quoi, toi, tes bons plans pour payer son entrée moins chère à Disney, manger avec un petit budget là-bas, sur place?
Alors, en fait, t'as plusieurs possibilités. Ce qui est. Sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés, par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment, quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion, mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, hein, à l'extérieur du parc. Moi, je dirais, le plus simple aussi, c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt, soit plus tard, en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi, quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais.
Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi.
En général, oui.
Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il n'y a pas trop de monde, on va dire?
Comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie.
Pendant la foule.
Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup... Évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine.
Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Bah, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, tu peux tomber sur du 15-20 minutes. Wow. Sur,
Oh, ça va.
Oui, non, c'est plus que raisonnable.
Franchement, c'est plus que raisonnable. Hein. J'ai attendu 100 minutes à une attraction à Disney.
Ouais. Ouais, ouais, je...
ouais, ouais, c'est normal. Ouais. 100 minutes, c'est pas mal.
On dit victime de son succès.
Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps
Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max.
Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça.
C'est un certain temps.
Le monde de Nemo, juste pour mettre...
Mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais.
Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire.
D'ailleurs, l'attraction Le monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio.
Oui.
Qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa.
Ouais.
Pas du tout, vraiment pas du
en
tout.
En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction.
Oui, enfin, ça, faut le savoir.
Sauf que personne ne le voit.
Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça.
Clairement.
On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges.
Oui.
Alors, ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio.
C'est ça, ouais.
Un petit peu plus loin que Disneyland Studio. C'est le prolongement du parc.
Exactement.
En gros.
C'est ça, c'est un prolongement du parc. Ouais.
Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part?
Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios.
Ah, ok.
Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement.
Exactement, ouais, en gros, c'est un prolongement. Il va y avoir un agrandissement, ça va popper.
Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses.
Je peux pas dire trop de choses.
Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ça va être très très grand.
Je pense que ça va être impressionnant, ouais.
Il y a un lac. On peut le dire.
Ça, on peut le dire.
Il y a un château. Château de la Reine des Neiges.
On peut pas le dire.
Ah, on peut pas le dire.
Oui.
Bon, écoute, ça semble un petit peu évident quand même.
Je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studios, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes.
Ouais.
Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé.
Ouais, si t'as des bons yeux, c'est pas moi qui l'ai dit.
Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein?
Ouais,
je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, quoi, ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment.
Ouais, en fait,
il y a vraiment pas grand chose.
Il y a pas d'intérêt, c'est de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il y a pas d'intérêt.
Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, en Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore.
Ok, t'as deux nouvelles attractions.
Okay.
Web, qui est une attraction. En gros, tu es dans pour simplifier, tu es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si tu avais fait Ratatouille déjà.
Okay. Ouais.
Donc, si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots, des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion.
Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi,
oui,
où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles.
Ouais,
là,
avec
plus d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée.
Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça?
Flight Force, ouais, exactement.
À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris.
C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein,
pas de
démarrage et tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday, qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça, ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale, en fait.
Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que tu avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non?
Non. Aerosmith.
Aerosmith pour n'importe quoi.
Oui, le thème de l'attraction.
Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction.
Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique. T'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe.
Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M, qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio, ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro.
Ok, c'est mieux.
Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction?
Tout dépend. Là on parle de toi.
On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens, et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants.
Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que tu as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple.
Ok.
Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique.
Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça?
Les châteaux.
Après le château, effectivement, c'est ça.
D'accord, là où il y a Peter Pan, Pinocchio. Exactement. Etc. Okay. Ouais.
Tout cette partie-là, tu peux le faire parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour Blanche-Neige et les Sept Nains.
Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles.
Ah ouais, bah, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Mm-hmm.
Alors c'est marrant parce que
je la connais pas du tout, moi, cette attraction, je vois même pas où elle est.
Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur.
Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents, et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt.
C'est ce passage là.
Une forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit.
Ah, mais il y a des gens qui crient ou
Non, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui tombent, c'est un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, c'est comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon,
tout dépend. En fait, oui. Je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez ok de voir un peu d'horreur, je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah, tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille, par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça. Mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup parc principal Space Mountain, alors Big Thunder Mountain que tout le monde appelle le train de la mine, voilà,
qui fait énormément de bruit d'ailleurs,
qui fait pas mal de bruit. Ouais. Bon, après c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc c'est un peu le but. Mais tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios, il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling, l'histoire est géniale.
Ouais.
Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en halfpipe là qui fait des allers-retours.
Oui, oui, qui fait allers-retours un peu comme un bateau pirate.
Ouais, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet réellement.
Oh, ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney. Stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action?
Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, tu restes, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discoveryland et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup, tu vas dans ce land et tu y restes. Même si tu as une heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que tu attends un petit peu plus longtemps, quoi.
Eh, tu fais bien de le dire, parce que moi, c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir, je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça, t'es claqué à la fin de la journée.
Bien sûr.
Donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique, ouais, et on épuise le truc. truc comme ça.
Pour moi, en tout cas, je, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée, en tout cas.
Et puis, alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu vas avoir le plus de sensations dans un manège. Tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière?
Alors, ça dépend l'attraction.
Comment ça dépend l'attraction?
Ça dépend ce que tu veux faire. Alors, imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, tu auras un peu plus de sensations parce qu'évidemment, comme c'est une sorte d'énergie, disons que tu as une poussée, et ben, tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais, par exemple, dans Flight Force,
c'est lequel celui-ci?
L'attraction de campus que je disais tout à l'heure.
Le roller coaster avant.
Voilà, okay. L'ancien Aerosmith. Et ben, je te dirais, mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que tu as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça.
Ouais.
Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie.
Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu.
C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World, la maison des poupées, c'est très très bien.
D'ailleurs, voilà. La maison des poupées, ça a réouvert ou pas encore?
Pas encore. Ça, alors j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore.
Ok.
Bienvenue sur 8FM. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment. Bienvenue sur 8FM, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur 8FM.
On a rencontré l'acteur Malik Bentala à l'occasion de la sortie du film Sonic 2 au cinéma. Malik Bentala qui faisait la voix justement de Sonic. On lui a demandé justement comment ça se passait un doublage, parce que peu de gens en savent exactement comment ça se passe le doublage d'une voix.
Typiquement, sur Sonic, je suis arrivé, j'avais une coach vocale qui s'appelle Barbara, que j'embrasse, qui a été d'une utilité formidable. Et on regarde scène par scène. Et à la fin de chaque scène, on débrief, on se dit comment tu vois le truc. Moi, je pense que Sonic ressent ça. On débat, on se met d'accord sur les intentions de jeu. Et une fois qu'on est d'accord sur les intentions, on fait la scène et on se reprend plusieurs fois jusqu'à trouver le bon ton. Et c'est généralement assez bluffant parce que dès qu'on a une bonne prise, que ce soit l'ingé son, que ce soit la coach vocale, tout le monde est assez unanime là-dessus. Donc c'est beaucoup de travail, on a beaucoup repris, on s'est pris la tête, on a beaucoup réfléchi sur la direction à donner à ce petit hérisson bleu et on est assez heureux du résultat, oui.
J'imagine que le plus gros du travail a été fait sur le premier film, Sonic, pour trouver justement la voix. Et justement là, donc c'est le deuxième film. Est-ce que c'est plus facile de retrouver un copain qu'on connaît déjà, ou au contraire c'est compliqué parce qu'on essaye de le réinventer ?
Ah non, c'est beaucoup plus, pour moi ça a été beaucoup plus simple de le retrouver, parce que sur le premier volet je me prenais la chose en pleine face en fait. Je découvrais, il était quasiment tous les plans, il était speed, donc il fallait que j'appréhende un petit peu, enfin j'appréhendais vachement, et il a fallu que je me mette dans les chaussons de Sonic, alors que là il était inconsciemment, il était déjà un peu en moi. Et le fait de donner la réplique à Tails, à Knuckles, ça permet de moins se sentir seul, de moins être sur des rails, donc ça a apporté un côté un peu choral qui m'a fait du bien, qui m'a stimulé, qui m'a redonné un peu d'énergie, et ça a été je me suis vraiment éclaté sur ce deuxième volet, ouais.
Justement, vous parliez de Tails, de Knuckles, qui ont chacun un peu leur propre pouvoir en sorte. Si vous, Malik Bentala, vous deviez avoir qu'un seul pouvoir, ce serait lequel ?
Alors, si j'avais un seul pouvoir, ce serait peut-être, je dirais, la téléportation.
Ah oui ?
Oui, à cause d'Anne Hidalgo. Parce que on en a marre. On en a marre. Les travaux, à un moment donné, il faut s'arrêter et kiffer. Le concept des travaux, c'est on fait des travaux et on s'arrête, on dit « Ah putain, c'est mieux que ce qu'il y avait avant ». On voit pas là, il n'y a pas le résultat final. Il y a travaux depuis 7 ans. Donc, pour éviter d'être dans les embouteillages et de se bagarrer avec des cyclistes et des trottinettistes, téléportation, maison, direct, je pense qu'on serait plusieurs à prendre ce pouvoir-là. Ah, voyager dans le futur aussi, il faudrait que je rencontre Doc. Faudrait que je rencontre Doc avec sa DeLorean, ouais.
À un moment, Sonic, il explique qu'être bizarre, différent, c'est pas si mal que ça. Au final, c'est presque même son super pouvoir. Vous, Malik Bentala, qu'est-ce qui vous rendrait spécial un peu de la même manière?
C'est dur à dire. C'est dur d'avoir un regard sur soi, mais la spécificité, enfin, en tout cas, avec du recul et je dirais que c'est peut-être l'humour. C'est l'humour qui m'a permis de dédramatiser beaucoup de situations dans ma vie ou de me faire remarquer, ou c'est l'humour qui a un peu changé ma vie quelque part, donc je dirais que c'est le fait d'avoir eu cette éducation pleine de bienveillance et de légèreté et de ne pas paniquer et de prendre les choses à la légère, un peu à la Balou, quoi. Il en faut peu pour être heureux, ou à la Winnie l'ourson, quoi. C'est cool, faut toujours voir le positif même si c'est pas évident, encore plus dans la situation qu'on traverse, mais je dirais que oui, l'humour. Et pour en revenir à Sonic, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce deuxième volet, c'est tous les messages un petit peu implicites qu'on peut découvrir à travers son rapport avec Knuckles notamment, ou avec Tails, se dire que ensemble on peut aller plus loin, et c'est ensemble que, de toute manière, on verra dans le film, enfin j'espère que les gens iront le voir, ensemble c'est beaucoup plus facile de vaincre, et la différence parfois c'est une force, enfin parfois, la plupart du temps. Il faut pas voir sa différence comme une faiblesse, bien au contraire, c'est ce que vous disiez. Et je pense que à travers ce Sonic 2 on a pas mal de petits messages subliminaux qui vont avoir de l'écho chez les plus jeunes, et c'est essentiel.
Et puis il y a bien sûr le grand vilain, hein, comme dans chaque film Sonic, qui est fait par Jim Carrey aux États-Unis. Vous, en termes d'humour, c'est quoi vos références ?
Dans l'humour, mes références, on parle de Jim Carrey forcément. J'ai grandi avec Jim Carrey, que ce soit The Mask, Ace Ventura, et puis plus tard quand j'ai pu comprendre le Truman Show, même Andy Kaufman. Man on the Moon, tous ces trucs-là de Jim Carrey, c'est une légende et pour moi, il est au panthéon des humoristes et des acteurs. Mais en France, voilà, si je devais vous citer des films, un de mes films de chevet que je revois sans cesse, c'est Mission Cléopâtre. Je trouve que ce film m'a mis une vraie claque parce que il y en a pour tous les goûts. Je trouve que on peut très bien se souvenir des phrases de Jamel, de Dieudonné, de Édouard Baer, de tous ces gens qui étaient dans le film. Il y en avait vraiment pour tout le monde et franchement, Mission Cléopâtre de Chabat, je dirais que c'est peut-être ce film-là qui m'a donné envie de poursuivre dans mon envie de devenir humoriste. Après, il y a eu aussi les années Canal, avec les grandes années Canal+, avec au départ de Coné Garcia, H, Eric et Ramzy. Par la suite, il y a eu les spectacles de Gad Elmaleh, tout ça. Donc voilà, moi, je suis un enfant de cette génération et tous ces talents. On parlait tout à l'heure, on parlait de la cité de la peur, les nuls, les inconnus. Voilà, ça a été un peu toutes ces références.
Et si on se replonge quelques années en arrière, au moment où on vous a proposé de devenir Sonic, ça a été quoi votre première réaction? Vous en avez pensé quoi?
Ça a été incroyable, ça a été un rêve de gosse parce que vraiment un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo, c'est Sonic sur Mega Drive. Je jouais à Sonic à fond non-stop et j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite parce que c'est vrai que la chance que j'ai dans ma vie, c'est de pouvoir faire ce métier. Et si en plus de ça, on peut allier rêve, on peut checker dans la to-do list, faire la voix de Sonic, je le fais avec plaisir. Et c'est vrai que c'est ce qui me motive. C'est vraiment cet aspect-là qui me motive le plus dans ce métier. C'est pas faire des projets pour faire des projets, mais c'est faire des projets qui ont du sens. Et pour moi, Sonic, ça avait du sens. Et c'était dans la lignée de ce qui me faisait vibrer quand j'étais plus jeune.
Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait un 2, voire même un 3?
Pas du tout, honnêtement, moi je m'attendais même pas à ce que ça marche autant, parce que pour moi ça s'adressait à vraiment à un public d'averti, parce que Sonic, ça parlait à ma génération, donc la vraie question, je me demandais est-ce que les nouveaux, les jeunes de la nouvelle génération vont se sentir à l'aise avec Sonic et représentés par ce film, et ça a été un carton monumental. Moi je trouve que 2 millions d'entrées pour un film d'animation comme Sonic, c'est énorme, et j'espère que le public, hein, qui est le maître à bord, qui décide de tout, j'espère que le public répondra présent pour le 2.
Et petite question bonus, est-ce qu'il y a une autre voix d'un autre personnage que vous auriez aimé doubler d'un autre dessin animé par exemple qui a bercé votre enfance?
Alors déjà, moi je suis un enfant du Club Dorothée, donc j'avais ma carte d'abonné, j'attendais mon nom au générique et tout, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée, et une voix que j'aurais aimé doubler, j'ai pas cette prétention, d'autant plus que je suis tellement fan et admiratif de Brigitte Lecordier qui a doublé pas mal de personnages dans Dragon Ball Z, donc j'ai une vraie admiration pour Brigitte que j'embrasse et qui a bercé mon enfance et que je remercie.
Je suis heureuse de vous faire découvrir toutes ces interviews, ces reportages, en version longue sur 8FM. Et c'est loin d'être fini. Écoutez.
Au moment de la sortie du film Super-héros malgré lui au cinéma, on avait rencontré Élodie Fontan, l'actrice, et Philippe Lachaud, une comédie de Philippe Lachaud justement sur un comédien qui perd la mémoire après un accident et se prend vraiment pour un super-héros à son réveil. Alors après s'être essayé à Nicky Larson, on avait demandé à Philippe Lachaud si le héros et même les super-héros c'était son dada ou si là c'était plus un prétexte pour le film.
Non, c'est vraiment venu pour les besoins du film. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet du film à la base, c'était pas les super-héros, c'était vraiment la perte de mémoire. J'avais vu le film La mémoire dans la peau à l'époque, avec Matt Damon, qui date un peu maintenant, et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a un sujet, enfin, la perte de mémoire peut être traitée en comédie, je suis sûr. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, en fait, de se dire, imaginons un acteur qui joue dans un film, qui perd la mémoire et qui va se prendre pour son personnage. Et c'est là qu'est venue l'idée de Super-Héros, en se disant, ce serait complètement fou que le mec joue un espèce de Batman à la française, qui perde la mémoire et qui se prenne pour un justicier, en fait. On trouvait ça fou et voilà. Donc c'est après qu'est venu du coup tout l'univers des super-héros, en se disant, à travers ça, on va pouvoir s'éclater, à parodier, à truffer le film de références.
Dans Spider-Man, il y a cette fameuse réplique « à grand pouvoir correspond de grandes responsabilités ». Est-ce que, justement, en 2022, faire rire quand on est un champion du box-office comme vous, c'est aussi avoir de grandes responsabilités envers le public ?
Oula, c'est très gentil. Cette réplique, d'ailleurs, on voulait la détourner dans le film. On voulait dire, pas de pouvoir implique aussi de grosses emmerdes. Mmh. Voilà. en tout cas, ça fait 2 mois là, qu'on est en tournée. On va dans toute la France, on monte le film. Donc, on peut vraiment échanger avec les gens. Et c'est vrai que ce qui ressort énormément, en fait, les gens nous remercient de leur apporter pendant 1h30 de la légèreté à leur quotidien, voilà, de la rigolade. On sent que les gens... plus que jamais, ont besoin de rire en ce moment et de penser à autre chose que toutes ces mauvaises nouvelles qu'on voit aux infos tous les jours. Donc, si on peut servir à ça, tant mieux. Et on en est fiers parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre les gens rire et penser à autre chose que tout ce qu'on voit à longueur de journée.
Et est-ce que ça vous met une pression supplémentaire au moment où vous tournez, où vous écrivez ou vous y pensez pas ?
Non, c'est pas une pression. Enfin, nous, on a toujours fonctionné en écrivant ce qui nous faisait rire. Et voilà. Et ce qui est chouette, c'est que visiblement, ça fait pas rire que nous. Et tant mieux. Donc, non, voilà. En tout cas, si on peut jouer, nous, ce rôle, si on peut servir à quelque chose plutôt dans cette période, tant mieux.
Philippe Lachaud a l'habitude de faire jouer dans ses films des acteurs récurrents, dont Élodie Fontan, à tel point que chacun peut au final dire son mot sur le scénario. Et c'est seulement quand tout le monde est d'accord que le tournage commence.
Ouais, en fait, nous, on veut que ça fasse l'unanimité à chaque fois. C'est-à-dire que c'est quand tout le monde trouve le scénario bien qu'on y va. Et c'est pareil pour le film, hein, le montage, qui est une nouvelle écriture du film. Faut que tout le monde le trouve bien, réussi, pour qu'on dise, allez, c'est bon, on part avec ça. C'est pour ça qu'on fait énormément lire le scénario, on montre énormément le film. Voilà. Et là, même la bande-annonce. On a fait 90 versions de la bande-annonce. On la trouvait pas. C'était très, très compliqué. Non mais c'était très dur, la bande-annonce était très dure à trouver parce que fallait raconter le film de façon drôle, enfin c'était, voilà. Donc, ouais.
C'est vrai qu'avec vous, la famille du cinéma prend tout son sens, mais ce qu'on surnomme la bande à Fifi, c'est au final parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ceux qui nous ressemblent ?
Ah bah c'est un peu, ouais, bah en fait nous si on fait des films aujourd'hui, c'est parce que clairement on s'est servi, c'est-à-dire parce qu'on a écrit nos propres histoires. Parce qu'on n'arrivait pas à décrocher les rôles dans les castings. Quand on voulait faire du cinéma, on dit non, vous avez. Enfin, donc c'est vraiment. Et pour en avoir parlé avec Gérard Jugnot à un moment, eux c'était pareil, hein, à l'époque du Splendid, ils s'écrivaient leur rôle parce que, en fait, il y a tellement de comédiens, il y a tellement d'actrices que forcément, avec des castings pour être pris à chaque fois, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Tu dépends aussi vachement de la vision d'un réalisateur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'écrit nos propres rôles et du coup, comme on écrit pour nous, effectivement, on en profite pour se faire plaisir sur des trucs qu'on aime bien jouer.
Le film Super-héros malgré lui parle d'un comédien un peu raté qui galère. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler de vos débuts à vous dans le cinéma ?
Ce qui est intéressant avec Elodie, c'est qu'on est liés par la même date. C'est-à-dire qu'il y a un peu la même date qui a changé nos carrières à tous les deux. C'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Baby Sting étaient sortis le même jour, le 16 avril 2014. Et en fait, moi, c'était mon premier film. Avant, j'avais jamais fait de film, j'y arrivais pas, je décrochais pas de rôle, il se passait rien. Pour Elodie, elle tournait déjà pas mal à la télé, mais elle n'avait pas percé encore au cinéma. Et cette date, la sortie de ces deux films, clairement, a changé nos vies en fait, et nos carrières. Donc c'est intéressant. Moi depuis très jeune, mais vraiment très très jeune, je dis à mes parents que je veux faire du cinéma. En voyant les films de Francis Weber et Pierre Richard, je voyais mes parents se marrer. Je leur ai dit je veux faire ça dans ma vie. Sauf que mes parents ne connaissaient personne dans le cinéma. J'ai pas eu la chance comme Elodie de commencer très jeune. Moi, j'y arrivais pas. Je passais des castings. Des fois même, je décrochais des rôles, mais j'étais coupé au montage. C'est ce qui m'est arrivé dans Star 80. J'avais 2 jours de tournage. C'était la première fois que je décrochais un rôle au cinéma. J'étais comme un fou, sauf que j'étais coupé au montage et j'étais pas au courant. Donc, j'ai emmené toute ma famille au cinéma pour m'apercevoir que je suis pas dans le film. Donc, c'était très dur, très très dur. Voilà, plein de moments de doute, plein de moments où on veut arrêter ou quoi. On est passé par la télévision en disant ça va nous servir de tremplin. Et voilà, et après, à force de persévérance, de chance et de travail, ça finit par fonctionner.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Et on découvre ensemble vos sons préférés comme celui-là. Wasted in love, misunderstood. Baby, it's harder to breathe when you're gone. So I hold them in my hand. Pictures of you, dream of the day you were eating for two. Oh, Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
Matt Pokora est de retour. Bon, 20 ans de carrière, mon Matt, cette année.
Ouais, c'est ça.
C'est beau.
20 ans en 2023 sur la tournée. On fêtera les 20 ans, là, c'est 19. Mais ouais, c'est que de chemin parcouru. J'aurais jamais pensé ça il y a 20 ans, justement, tu vois, à 17, 18 ans. Donc, c'est assez incroyable ce que je vis depuis toutes ces années, de voir qu'encore après 20 ans, j'ai la chance de pouvoir aller dans les plus grandes salles de France pour partager ces moments avec le public, c'est exceptionnel.
On va refaire un petit topo. 8 albums.
Ouais.
5 millions de disques vendus. C'est le 9e, donc 8 9e déjà sortis et 9e.
Si tu comptes Link Up et Robin des Bois.
Oui, c'est ça. Donc 5 millions de disques vendus.
Ouais.
Pas dégueu. Hein. De Popstar, l'émission, justement, tu parlais de Link Up à une vraie vie de Popstar.
Ouais. C'est ça, c'est ouf. Ouais.
Et je voulais te poser cette question déjà pour démarrer. Est-ce que quand t'es parti à Los Angeles, t'as quitté la France où je pense que où que tu ailles, on te reconnaît partout tout le temps. Tu vas faire tes courses. Des fois, ça doit être un peu chiant quand même quand t'es en jogging. Tu vas acheter tes trucs. Tu vas.
Non, tu sais, il y a un truc que je dis tout le temps. Je dis, vous savez quoi, pourvu que ça dure.
Ah.
C'est bon signe. Tant que les gens viennent me solliciter, bah après voilà, l'équilibre entre les deux villes pour moi c'est parfait. Mais et tout comme aussi au bout de quelques mois de ressentir l'amour des gens et de les sollicitations, ça me manque aussi. Je me suis nourri de ça depuis que j'ai 17 ans. Des gens qui viennent me voir, qui me sollicitent, qui m'encouragent, qui me disent un petit mot sympa, etc. C'est aussi un moteur pour moi. Donc, aussi bien je suis content quand je peux un peu profiter de mes enfants et de ma vie de famille sans qu'on me reconnaisse. Et tout comme j'ai aussi besoin de ça au bout de quelques mois, ça me manque. Donc,
t'as fait partie de toi depuis 20 ans.
Ouais, donc c'est franchement, j'ai l'équilibre parfait aujourd'hui entre deux pays, entre deux villes. Voilà, je suis vraiment comblé, ouais.
Bon, on l'a vu dans le clip. Alors moi, je te vois en face de moi, c'est de Pecou. Incroyable. Matt Pokora, c'est le seul gars. Il a essayé toutes les pecous que j'aurais kiffé essayer. Moi, si je les avais fait, j'aurais regardé un compte. Toi, t'es beau gosse.
C'est vrai, j'en ai fait un des coups. Hein.
Là, on est en mode.
J'ai regardé ce matin le clip. Je dis, c'est vrai que c'est la première fois que j'attaque un projet avec cette longueur de cheveux. J'ai vraiment tout fait. Hein.
C'est Griezmann de retour à l'Atlético.
Ouais, je te jure. Les crêtes, les rasés, cheveux longs, les robins des bois, queue de cheval, les machins décolorés.
Mais ça t'allait bien à chaque fois. C'est vrai que quand tu regardes les photos, tu sais, t'as des artistes, tu les regardes, tu dis, ouais, ça a pris un coup de vieux quand même.
J'assume plus trop les tribales, les motifs, le tribal que je faisais dans la tête.
C'était à la mode à l'époque.
Quand j'étais petit jeune. Là,
on est en. Ça me fait penser. Tu regardais Buffy contre les vampires?
Oui, il y avait le.
Spike.
Tu sais quoi, quand j'ai fait la décoloration, j'ai dit avec cette longueur de cheveux et décolorée, on dirait le méchant dans plein de films.
Eh ben, c'est dans Spike, dans Buffy, déjà.
Dans Piège de cristal là, avec Die Hard avec
Bruce Willis.
Pareil, le méchant et les cheveux décolorés blonds, le décoloré blond un peu long en arrière, c'est souvent.
Pareil, Marine Le Pen, décoloré blond.
C'est ça, souvent le décoloré blond, c'est un petit bâtard.
Mais c'est génial parce que Matt Pokora, ce que j'allais dire, c'est la première fois qu'on se voit. Et je sais pas, j'ai toujours eu cette sensation. Matt Pokora, t'as envie de te dire, tiens, un dimanche après-midi, comme tu fais avec tes potes, viens, on va à Lidl, on achète des trucs, on se fait à graille, et puis on fait un FIFA toute l'après-midi.
C'est ça.
Bah, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire avec toi, alors.
C'est ça.
Fera peut-être pas, mais en tout cas, c'est une volonté que j'ai.
Non,
c'est faire les burgers.
Set up un petit écran et FIFA quand je reviens la prochaine fois.
Ok. On met Sylvain, notre community manager, sur le dos, c'est celui qui gère les écrans.
Allez, Sylvain. Tu peux trouver des PS5 à 700 balles, maintenant.
On va essayer de trouver les adresses.
Quand je danse, quand tu danses, des planètes tournent tout autour.
Très content d'être avec Matt Pokora. On parle un petit peu de cet album avec le premier extrait, on voulait diffuser, c'est celui-là.
Viens, on aime qui on est. Viens,
j'adore.
On aime ce qu'on a.
Petite balade comme ça, le clip il est fou aussi.
Ouais.
Matt Pokora, ça se voit pas, mais il s'est volé. J'ai vu ça dans le
clip.
Il s'est même monté au ciel avec des marches comme ça.
Et sans effets spéciaux.
Et sans effets spéciaux.
Il n'y a pas eu de post-prod après.
On voit pas les fils. Déjà.
On voit pas les fils.
Lucas, beau gosse, mais journaliste avant tout. Puis beau gosse, alors on dit ça quand les artistes viennent. Ça marche beaucoup d'habitude quand c'est les Britanniques et tout. Avec Matt Pokora, c'est dur de dire beau gosse à côté de Matt Pokora, ça fera toujours un petit peu moins.
Un potache.
C'est un peu le même délire, mais en. Je vais pas le vexer. Blond vénitien.
En plus jeune.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est le même, mais en plus jeune.
Pas le même talent, on va pas se mentir.
Non. T'avais une question pour Matt.
Bah ouais, qui on est, nouveau single, donc chanson sur l'acceptation de soi. Globalement, on peut dire ça. C'est une chanson qu'on a écrite pour toi d'ailleurs.
Ouais.
Et quand on te l'a proposée, elle t'a tout de suite plu. C'est ça?
Tout de suite. J'étais à Los Angeles ce jour-là. J'étais, j'ai reçu plusieurs chansons et j'avais attendu 2-3 jours. Je me suis dit, je vais me faire une session, je vais tout écouter d'un coup. Et puis, quand j'ai joué le morceau, je me rappelle, avec des écouteurs pour me mettre vraiment dans ma bulle et tout. Et dès les premières paroles, en fait, le texte m'a interpellé. Mm-hmm. Et ce phrasé-là. Tu vois, des amis, des avis, nanana, part. Et je dis, waouh, c'est original, ce phrasé et tout. Et puis d'un coup, le refrain qui s'ouvre en grand refrain très populaire, quoi.
Et je rentre dans la tête tout de suite.
Direct, je me rappelle avoir tout de suite appelé mon manager et dit, eh ben, tu sais quoi, l'album, déjà, il est sauvé, quoi. Parce que
on a déjà l'ouverture.
Je viens de recevoir un truc énorme, quoi.
Ça a été un coup de cœur, en fait.
Un vrai coup de cœur. C'est-à-dire, même pas la première écoute, à la fin du premier refrain, je savais.
Ouais.
Et ça m'avait fait ça une seule fois dans ma carrière auparavant, c'était sur Les Planètes. Mmh. Deux seuls types, bon, deux albums coup sur coup, même pour Photos de toi, Elle me contrôle ou tous mes tubes d'avant, jamais j'ai eu cette sensation là à la première écoute.
Quand je danse.
Ça a marché ça ?
Ah ça ouais, ça a fait un petit milliard de contacts en radio.
Je crois que c'est mon préféré de toi.
Il faut savoir qu'il chante tout le temps, ouais. Nico.
Alors, vraiment. Je me suis renommé.
Pour un mec qui fait de la radio, c'est plutôt bien quand même.
Bah ouais, je m'appelle Matt Pokogra. Voilà, c'est un petit peu le même. Non, mais vraiment fou. Et du coup, avec qui t'as bossé? Parce que la première fois que j'ai écouté Qui on est, je me suis dit, ça ressemble un peu à l'écriture de Vianney. Ah et je sais que Vianney, il bosse avec pas mal d'artistes, donc ouais. C'est pas Vianney.
Non, c'est pas Vianney.
Tu vois, Lucas, j'avais raison.
Le nez, quoi.
Non, il s'appelle Nazim.
Ah, bah oui, Nazim, il a déjà bossé avec plein d'artistes
Nazim,
aussi.
Nazim, il y a Robin qui a bossé dessus. Et Julien Comblat. Voilà.
Et sur tout l'album, t'as bossé avec eux ?
Oh, sur pas mal de titres, ouais. Pas mal de titres. Okay. On a trouvé une belle couleur ensemble, ouais.
Lucas, tu as plein de questions pour Matt, je sais, Lucas. Parce que voilà, Lucas et Locas. Et ben vas-y, Matt, t'écoute.
Ben on parlait de ce titre tout à l'heure, tu disais que c'était vraiment un coup de cœur pour toi. Est-ce que le sujet aussi, le thème abordé dans les paroles, ça a aussi été un coup de cœur, j'ai l'impression.
Bien sûr, c'est déjà s'accepter. Je pense que la meilleure façon d'être aimé des autres, c'est de s'aimer soi-même avant tout déjà. D'être en accord avec soi-même. Quand je dis s'aimer soi-même, il n'y a rien de narcissique évidemment. Mais c'est d'être bien dans sa peau. D'être en accord avec soi-même et puis aussi voilà de d'être content de ce qu'on a, de se réjouir de ce qu'on a sans satisfaire, puisque satisfaire ça peut être aussi une connotation un peu négative dans le sens où se satisfaire c'est dire oh je suis bien dans ça, je bouge
j'ai pas besoin de plus,
c'est de se dire voilà de s'accepter, d'accepter ce qu'on a et de le prendre avec joie, tout en se disant, voilà, ça m'empêche pas de continuer de viser haut, d'avoir des rêves, de l'ambition, etc.
Il y a une raison pour laquelle aujourd'hui, dans ta vie, ça te plaît encore plus, peut-être, ce thème?
Bien sûr, depuis que je suis père de famille, c'est évident que c'est le premier album, déjà, en tant que papa, que j'enregistre, où j'ai mes deux enfants. Donc, forcément, ça s'en ressent sur les thèmes, sur ce que j'ai envie de dire, ce que je n'ai plus envie de dire ou de faire dans une chanson. Donc voilà, toutes ces choses-là se retrouvent sur l'album et c'est vrai que des messages comme ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi en tant que père de famille aujourd'hui.
Donc c'est pas une légende, devenir père, ça change vraiment un homme.
Ouais. Ah oui, évidemment, bien sûr.
J'ai pas encore sauté le pas.
Quand à l'époque, première chanson que j'allais écrire, j'allais penser histoire d'amour, séduction, machin. Séduction, c'est vraiment le dernier thème qui me vient à l'idée aujourd'hui.
Aujourd'hui, ouais.
Tu vois, parce qu'il faut arriver à se projeter, à se mettre dans la peau, et aujourd'hui, j'ai du mal à me mettre dans la peau d'un personnage en oubliant mes enfants, en me disant ouais, mais là, donc je suis dans un club, dans la chanson, je séduis une femme de trucs. Non, tu vois, j'ai du mal.
Ça colle pas.
Donc c'est voilà, il faut vivre avec son temps et avec ses expériences.
On n'est plus sur cette ambiance. Même j'adorais.
Ou alors, si vraiment je parle comme ça, je décris vraiment ma femme pour qu'il y ait aucun.
Ok.
C'est quoi les autres thèmes de l'album du coup?
Les autres thèmes, il y a des chansons qui parlent de mes enfants, de retrouvailles, de se retrouver après un long moment. Donc ça fait un peu allusion aussi à cette séparation où on s'est tous fait séparer avec le Covid, des choses comme de la Covid, etc. Enfin, il y a un peu tout, hein, des choses un peu plus dansantes, fédérateurs, etc. Donc ouais, il y a vraiment un peu de tout. Il y a des histoires d'amour, ça aborde un peu tous ces thèmes-là.
Tu fêtes donc tes 20 ans de carrière l'année prochaine. Mm-hmm. Sur scène, comment ça va se traduire sur scène?
Bah, comme à mon habitude, hein, ça va être une énorme scène. Ça va être là, on est sur une quinzaine de danseurs.
Ah oui.
Plus les musiciens.
Plus toi qui danses encore.
On va être plus de 20 personnes sur scène. avec une scène qui avance dans le public.
Donc,
on va se retrouver au cœur du public une bonne partie du concert. Donc ouais, non, c'est un vrai show, mais tout en gardant justement avec cette possibilité d'être au cœur du public, cette proximité. C'est-à-dire que voilà, il y aura pas la froideur d'une grande salle. Non, on essaie d'aller chercher les gens au plus loin, au fond de la salle.
Justement. Parce que tu parles quand même de la plus grande tournée de ta carrière.
Ah bah là, ouais, c'est clair. C'est clair que là, pour les 20 ans, il fallait mettre les petits plats dans les grands, et c'est ce qu'on est en train de faire là sur la préparation.
Est-ce que ça t'arrive, je pense que je connais la réponse, mais d'avoir des gens que tu vois sur quasiment chaque date ou par secteur, genre toutes les dates que tu fais à l'Est, t'as tes fans qui te suivent et qui vont faire genre, je sais pas, Strasbourg, Mulhouse.
Oui, j'en ai que je reconnais tout le temps. Et puis il y en a surtout, ils sont là depuis presque 20 ans.
Bah, ils ont grandi avec toi, en fait.
Il y en a, je les reconnais. Et puis il y en a, ouais, que je vois souvent au premier rang sur 2-3 villes différentes dans le nord ou dans l'est ou dans le sud et tout. Et donc voilà, moi, c'est aussi un truc, quand je suis sur scène, je suis tellement, j'arrive tellement à gérer tous les paramètres en même temps que je peux aussi même chanter, faire ma choré, mes déplacements tout en faisant attention aux gens qu'il y a devant. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette possibilité de regarder les gens dans les yeux, de leur faire un clin d'œil, de rigoler, de machin, et de rester dans mon truc, mais tout en sachant exactement qui est où. Et il m'arrive, ouais, des fois, je me change, je dis, ah, t'as vu, il y a truc au premier rang, au deuxième, il y a machin.
Tu vois, vous croisez les têtes, vous les reconnaissez.
Vraiment, je fais, ouais, ça, c'est un truc auquel je prête vraiment attention dans les concerts, les gens qui sont devant et que j'ai l'habitude de voir.
Tu vas passer tout à l'heure à l'interrogatoire.
Ah.
Voilà. C'est une garde à vue avec moi. Enfin, je suis sympa.
Garde à vue avec des grandes fenêtres, c'est bien, des bébés.
On peut fermer les stores. Ouais. On peut avoir une ambiance un peu plus intimiste. Justement, on parlera du concert et des titres que tu vas faire. Alors, ouais. Si t'as pas envie de me dire, c'est pas grave, j'ai trouvé un subterfuge.
Ok.
En tant qu'inspecteur Nico. voilà. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Juste avant, on continue un petit peu les questions, Lucas.
Bah, comme tu veux.
Alors, moi, j'en ai une pour mettre Pokora. Enfin, c'est pas une question, c'est une réflexion.
Ah oui, d'accord.
C'est la première fois que je suis aussi cool avec quelqu'un qui est le fantasme de ma chérie.
Ah merde.
Depuis qu'elle est petite.
Ouais, j'y suis pour rien, mais.
Donc, elles ont une conversation avec ses copines, là, qui s'appelle les cops. Ouais, bah, t'inquiète pas, elle est au courant. Ça s'envoyait des textos dans tous les sens, genre, ah, demain, Nico, il voit Matt, ah, machin. Donc voilà, oui, j'ai vu Matt, voilà, et il est marié, il a des enfants, donc laissez-le tranquille. Voilà.
On lui fera une vidéo quand même.
On va lui faire une petite vidéo. Bon, Matt, tu restes avec nous. Bon, Matt se diversifie aussi dans ses business, t'as ouvert des trucs de bouffe. Alors moi j'ai déjà mangé à celui qui est à Annecy, quand il avait ouvert, parce qu'avant je travaillais à Genève, donc non loin.
À côté.
Voilà. Et là il y en a un nouveau.
Ouais.
Qui s'appelle le LA Pasta Corner.
Ouais, c'est Pasta Corner.
Non, pas des pizzas.
Non, c'est vrai, c'est pas des pizzas. Non, Pasta Corner LA, ouais, qui est ouvert depuis le mois de décembre dernier.
Et ben je vous ai préparé un petit questionnaire justement avec des artistes qui ont ouvert ou pas des business, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. D'accord?
Dis quoi, le nom du business?
Exactement, tu vas voir.
Vas-y.
Incroyable comme jeu. La Chine nous l'envie et vous ne l'aurez pas. Vous dites, ah, c'est trop bien, oui, c'est trop bien, c'est le nouveau Matt Pokora. Alors, Matt, justement, on parlait de bouffe, tu t'es un petit peu diversifié comme plein d'artistes. Donc, toi, t'as deux restos, un qui s'appelle L'Alpin qui est à Annecy.
Que je n'ai plus.
Que t'as plus. Alors, moi, j'y étais à l'ouverture, donc c'est à toi.
Ouais, ça fait juste un mois qu'on on a changé de propriétaire. Mon partenaire, il était fatigué, il voulait redescendre dans le sud, donc on a cédé le restaurant à des nouveaux propriétaires.
Et t'avais fait l'ouverture, parce que je me rappelle, j'y étais venu.
Ça faisait 7 ans, là, jusqu'à là, il y a 2 semaines.
Et donc nouveau resto donc à Los Angeles qui s'appelle le LA Pasta Corner.
Ouais, Pasta Corner.
Pasta Corner, juste
Pasta
comme ça.
Pasta Corner, voilà. Ouais.
Donc je me doute qu'on mange des pâtes.
Des pâtes fraîches. C'est ça le concept. C'est qu'en fait, on fait nous-mêmes les pâtes le matin, on a toute la machine, etc. Et donc on fait les. Après, on a une quinzaine de recettes différentes. On peut préparer les pâtes où les gens peuvent prendre leurs pâtes fraîches et emporter à la maison.
Et donc, ta chérie aussi, Christina, elle est la beignet box.
Ouais, c'est ça.
Un food truck avec des beignets.
Alors non, il y a une boutique maintenant.
Ah, il y a une boutique.
Il y a une boutique Beignet Box à Studio City. Il y a une boutique dans un centre commercial. Et il y a 2 food trucks. Ouais. Donc pour l'instant c'est 2 boutiques et 2 food trucks
cool.
Qui se baladent un peu partout. Ouais.
Des trucs.
Les Angelinos comme on appelle les habitants de Los Angeles.
Los Angeles, ouais.
En raffolent.
Eh ben écoute, si je passe un jour, je mangerai un beignet avec grand plaisir. Donc, t'es pas le seul artiste d'avoir diversifié tes activités. On va jouer au qui a ouvert.
Ouais.
D'accord. Okay. Je vais te donner des artistes leur business et tu vas me dire si c'est vrai ou pas.
D'accord.
Ok. Première question. L'ancien rugbyman Sébastien Chabal a sorti une marque de soins pour la barbe qui s'appelle Au Poil.
Ah.
Non.
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est vrai. C'est vrai. Spécialiste rugby, Lucas Pierre.
Tellement oui. Facile, je me suis dit.
Il l'a fait. Et il a aussi une marque de fringues, c'est ça?
Ouais, Rockfield.
Ouais, bon, ça a rien à voir avec la barbe, ouais, ça.
Non.
C'est un peu moins drôle, Rockfield. numéro 2. Booba a lancé une marque de feuilles à rouler des cigarettes qui font un petit peu rigoler, qui s'appelle la Piraterie Paper.
Non.
Si.
Mais non. Mais...
Booba, pas de clash avec Matt. Hein,
non,
pas de...
non.
Mais la Piraterie Paper, ouais.
Ok, d'accord. Voilà. La Piraterie Paper, ok. Bah, je savais pas.
Numéro 3. Renault a ouvert un concept comme Flunch, mais c'est pas les légumes qui sont à volonté, c'est autre chose.
Non, bah non.
Non, c'est pas vrai.
T'abuses.
L'actrice Gwyneth Paltrow, peut-être que t'as déjà croisé à Los Angeles, l'ex de Chris Martin de Coldplay, a sorti une gamme de bougies odorantes et de parfums, mais qui sentent l'odeur de ses parties intimes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Non.
Eh ben si, c'est vrai, ça s'appelle...
Mais ses parties intimes à elle.
Oui, oui. Ça s'appelle « This smell like my vagina ».
Hein?
Oui.
Eh ouais.
Bougies et parfum. Bah, en France, il n'y a pas longtemps, il y a une meuf qui s'appelle Ruby Nicara.
Elle vend l'eau. Elle est très, très, très propre, alors.
Eh ben écoute, visiblement, ça sent le patchouli et le géranium. C'est ce qu'il y a écrit sur son dépliant, c'est pas moi, hein, c'est Gwyneth Paltrow.
C'est le communiqué.
Et bien sûr que c'est le communiqué, je vais pas inventer un truc comme ça. Hein.
En même temps, la femme d'Iron Man.
Oui, c'est vrai. C'est vrai,
hein,
c'est vrai.
Il a dû inventer un truc, le gars. Ah, je suis quand même super éclaté là dans ce jeu là.
Ouais, mais c'est pas grave. Eh, franchement, je préfère que tu sois éclaté à ce jeu et que tu sois bon en musique, si c'est le cas. T'as besoin d'aller vite, le bonheur, on est vite. Ça, c'est le nouveau.
Qui aurait dû te prendre pour faire les chœurs?
Ouais, alors seulement en playback.
Je sais pas qu'est-ce qui m'a appris de les faire moi-même, j'aurais dû te demander.
Bah oui, tu m'appelles moi de toute façon.
Oh, le con!
Un coup de ligne 1, j'arrive à Los Angeles, c'est terminé. Matt, tu vas rester pas mal en France cette année ou tu vas continuer de bosser From LA peut-être?
Mais non, moi je fais. Bah en fait, depuis 5 ans, je suis à peu près moitié-moitié, voire un petit peu plus en France.
D'accord.
Mais là, ouais, à part peut-être après Noël, rester un petit peu là-bas et avant de repartir au charbon, les répètes de la tournée, tout ça. Mais
parce que là, ça s'enchaîne, ça arrive vite.
Sur les 2 ans à venir, là, je vais être 85% du temps en France. Ouais.
Ok.
Et du fait d'avoir déménagé aux États-Unis, il y a des choses en France qui te manquent? Ou pas?
Mais non, il t'a dit que la moitié
en fait,
était là.
J'ai pas
non,
je déménagé. Sais, mais... En fait, oui, si tu veux, je suis vraiment.
Pas.
Si tu veux, j'ai vraiment. Tu vois, j'ai deux fois des dressings. C'est-à-dire que quand je voyage, je prends pas de bagages.
Ah ouais,
c'est-à-dire que j'ai une partie de mes affaires ici, une partie là-bas. Et vraiment, je voyage sans bagages. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, je suis entre les deux. Et
tout ça pour pas payer le supplément, voilà. Bravo.
Tout ça quoi?
Pour pas payer le supplément.
Non, non, bagages, mais, bravo. Mais non, c'est vrai que je suis vraiment entre les deux et ça me convient parfaitement. C'est-à-dire que un côté a ce que l'autre n'a pas et vice versa. Et je trouve que c'est un équilibre voilà parfait pour moi.
20 ans de carrière l'année prochaine pour Matt Pokora, 9e album, 5 millions d'exemplaires vendus. Franchement, le rêve de la pop star quoi.
Ah ouais, ça c'est sûr que si on m'avait demandé de rêver, d'écrire sur un papier mon rêve sur mes 20 années de carrière, en tout cas les 20 premières, j'aurais peut-être même pas osé mettre tout ce qui m'est arrivé là. Quoi.
Si il y a des garçons, des filles qui rêvent de faire ce métier, etc., quel conseil tu pourrais leur donner en 2022 que t'aurais pas pu leur donner il y a 20 ans quand on t'a repéré dans Popstar?
Une carrière, c'est une course de fond, pas un sprint.
Ok.
C'est beaucoup de travail, c'est du respect. C'est de la remise en question. C'est-à-dire qu'à chaque succès, il faut pas se croire arriver au sommet et être le roi du monde. C'est se remettre en question. Ça, on monte aussi vite qu'on redescend. Et humilité. Parce que justement, tous les gens que tu croises en montant, tu les recroiseras en redescendant. Donc ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Ouais. C'est respect, travail, beaucoup, beaucoup de travail, humilité. Et hygiène de vie, tout ça. Enfin voilà, c'est un métier où on doit être généreux, on donne aux gens, on le fait parce qu'on aime ça, parce qu'on aime les gens. Avant tout, je crois que c'est avant tout ce qui caractérise ce métier, c'est qu'on fait ça parce qu'on aime les gens, parce qu'on divertit les gens et qu'on veut faire ça. Et pas parce qu'on veut être célèbre ou voilà. Moi, c'est vraiment, je veux faire un album parce que je veux monter sur scène, parce que je veux divertir les gens. Voilà.
Je suis bouche bée de ce beau conseil.
Oui, c'est beau.
Non, je me dis que s'il y a des gamins qui nous écoutent, ou des moins gamins d'ailleurs, que ce soit pour faire de la musique ou pour faire n'importe quoi, ces conseils, ils s'appliquent parce que tu peux l'appliquer dans le foot, tu peux l'appliquer dans la fonction publique. C'est des conseils de vie.
Dans tous les métiers, c'est la même chose. La remise en question, le respect, l'humilité, le travail.
Merci beaucoup, Maître Pokora, d'avoir été là.
Avec grand plaisir.
Comme je disais, on s'était jamais vu. Tous mes collègues de radio m'ont dit, tu vas voir, Matt, il est super cool. C'était un euphémisme. Franchement, t'es une crème, mec. Merci beaucoup. Longue vie à toi, longue vie à l'album.
On se revoit pour jouer à FIFA la prochaine.
Exactement.
C'est bientôt la fin de la nuit sur 8FM. Je vous retrouve demain. D'ici là, passez une bonne journée. Au revoir.
There's a place that I go every time that you're in town. It's just me in my nights, in my stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you. Never mind, never mind. Feels like you are never mine. Go lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work out. Oh, 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 oh